Luc 9, et on va lire simplement les versets 51 à 56. Luc 9, 51 à 56. Luc 9, 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors dans mon texte qui est écrit sur l'écran là, j'ai mis en gros et en gras cette parole que Jacques et Jean ont prononcée. « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu du ciel de descendre et de les consumer ?» C'est incroyable cette parole. Alors pour retracer le passage très rapidement dans le contexte, parce que c'est important de le faire, Jésus et ses disciples sont à Bethsaïda. Bethsaïda, c'est une ville au nord du lac de Génézareth, ou Tibériade, ou Galilée. Mais en tout cas, c'est à 100 km au nord de Jérusalem. Donc, ils avaient passé un peu de temps là, et ils rentraient sur Jérusalem. Donc, à l'époque, on faisait ça à pied. 100 km à pied, c'est pas un détail. Problème, c'est qu'entre le point A, le point de départ, et le point d'arrivée, il y a la Samarie. Et on sait très bien que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas du tout. Et même, il est dit dans Jean 4 qu'ils n'entretenaient aucune relation. C'est-à-dire, ils s'évitaient soigneusement. Donc, il n'est pas étonnant que Jésus, qui retourne à Jérusalem, on ne lui offre pas d'hospitalité pour la nuit. Donc, on peut comprendre la réaction de Jacques et de Jean, qui s'énervent. Et pourquoi ils s'énervent ? Parce que si on leur refuse le logis, eh bien cela implique naturellement que la route va être plus longue. 100 km, c'est déjà suffisant. Enfin, Seigneur, mince, on ne va pas faire 200 km, on ne va pas tourner en rond. Ça voulait dire aussi qu'ils devraient faire un détour, perdre du temps, et que c'est dommage de perdre du temps. C'est rageant quand même. On peut le comprendre, c'est rageant. En plus de ça, les disciples avaient reçu certains pouvoirs, puisqu'il est dit dans les évangiles que les disciples guérissaient des malades. Alors, peut-être que Jacques et Jean se sont sentis un peu portés, là. Ils se sont dit, bah, tiens, on va en profiter un petit peu. Et force est de constater que cette énergie, cette puissance que Jésus leur avait confiée, leur était un peu monté à la tête. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende sur eux et les consume ? Enfin, c'est quand même grave comme parole. Aujourd'hui, on dirait que c'est énorme. Et combien nous, qui lisons ce texte et qui nous mettons un peu à leur place, nous serions nous-mêmes réjouis de voir en effet la parole des disciples exaucée, de voir le feu du ciel descendre et consumer des personnes qui ont simplement dit non. Mais c'est bizarre comme réaction. D'où nous vient cette joie de punir? J'ai appelé cette prédication, enfin cette réflexion, la rage de punir. Il y a une poétesse du début du 19e siècle qui a cité ceci. C'était Marceline Desbordes Valmore, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a dit ceci, « Il ne faut pas compter sur la pitié des hommes, pardon, quand ils peuvent se donner l'importante joie de punir. » Ne vous attendez pas à ce qu'on prenne pitié de vous quand on a un tantinet le moyen de pouvoir punir. Eh bien Jésus, lui, ne voit pas les choses de cette manière. Lui aussi, il aurait les moyens de punir. Mais les disciples se font sévèrement reprendre par Jésus après de telles pensées et une telle parole. Le Sauveur proclame là plutôt sa volonté de sauver des âmes plutôt que d'en perdre. Il y a quand même, vous le reconnaîtrez facilement, une grosse différence entre la vie des disciples et la vie de Jésus. Alors on va tirer deux enseignements de cette parole que les disciples ont prononcée. Pardon. La première, c'est la critique facile. La deuxième, ce sera effectivement la rage de punir. Chers amis, ne sommes-nous pas aussi de la même pâte ? N'aurions-nous pas, nous aussi, tendance, comme Jacques et Jean, à réagir vivement et démesurément sous la colère ou l'humiliation, ou devant une injustice, ou encore devant une situation de jalousie ? Ne nous arriverait-il pas régulièrement de critiquer, de juger quelqu'un ou un groupe de personnes, hâtivement ou sans raison ? Je vous donne quelques exemples. Vous allez rigoler. Le pasteur était long ce matin. De toute façon, chaque fois qu'il parle, c'est comme ça. Il veut se montrer à tous les coups. Il a un petit côté orgueilleux quand même, non ? Tu ne trouves pas ? Les pentecôtistes, on se demande s'ils ont vraiment tout compris. Ils ne font que chanter, faire des shows, mais au fond, quand on gratte, il n'y a rien. À ce compte-là, à ce propos, je rappelle une anecdote que quelqu'un rappelait à l'occasion d'un message. C'était un pasteur. Il avait un copain qui était particulièrement, vous me permettrez l'expression, particulièrement casse-pied. À chaque fois qu'il se rendait dans une église, ça se passait mal. Il finissait par avoir des différends avec les uns et les autres, et ça se finissait à chaque fois pareil. Il sortait. Et ce pasteur lui conseillait, « Bon, bah, t'as pas pu aller dans cette église-là, ça s'est mal passé. Va dans cette église-là. » Donc, il allait dans cette église-là. Et ça se passait toujours mal. Et il en a fait comme ça, 4, 5, 6, je ne sais pas combien, au final, mais ça s'était toujours passé mal. Et finalement, cette personne qui était difficile s'est rendue dans une église pentecôtiste. Et ce pasteur s'est dit, mais alors je lui ai conseillé plein d'églises, ça n'a jamais marché, alors chez les pentecôtistes, ça va être la cata. Et finalement, cette personne s'est intégrée dans l'église, sa foi s'est dynamisée, et aujourd'hui, il y est encore dans cette église, il s'y plaît. Et ce pasteur reconnaissait devant tout le monde, je dois confesser que j'ai mal pensé, j'ai critiqué. Cette personne, aujourd'hui, est dans une église pentecôtiste. C'est vrai qu'on a tendance parfois à critiquer. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il s'est épanoui dans cette église. Il a trouvé sa place. Et bien, c'était là qu'il devait aller. Une autre sortie encore qu'on peut entendre. Les catholiques ne sont pas sauvés. Les jeunes des banlieues, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, je t'enverrai l'armée là-dedans et hop, je te mettrai tout ça au boulot. Hein, et tu vas voir. Quelque chose qu'on m'a déjà dit, donc ça c'est quelque chose de vrai. Normal que tu aies des soucis avec ce salarié. C'est un entier. Hein, tu n'aurais jamais dû le recruter. Bon, Dina qui était sortie, il valait mieux. Hein. Merci. Ou encore un petit peu plus grave, qui ressemble un peu à de l'actualité. Celui qui a assassiné ce petit enfant mériterait qu'on lui fasse la même chose, mais alors beaucoup plus lentement, pour qu'il ait bien le temps de réfléchir à ce qu'il a fait. Une autre sortie. Pourquoi les vents zones sont encore pas là ce matin ? Ils exagèrent. Ils sont toujours ailleurs. Il faudrait quand même qu'ils respectent un peu leurs engagements. Quelque chose que j'ai aussi entendu, qui est grave. Faut pas qu'il s'étonne d'avoir eu un cancer. Avec tout ce qu'il a fait, on n'a que ce qu'on mérite. Je l'ai entendu. Hein. Eh bien, chers amis, si chacun avait effectivement ce qu'il mérite, il n'y aurait personne dans la salle, nous serions tous morts. Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. Et Jésus le montre très clairement à ses disciples. Alors pourquoi sommes-nous capables de prononcer de pareilles horreurs? Jésus pourrait également nous dire à nous, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et bien précisément, ben, puisque Jésus nous dit ça, il ne va pas plus loin. Il ne dit que cette phrase. Vous ne savez de quel esprit au singulier vous êtes animés. On va essayer de savoir de quel esprit Jésus parle ici. Pour vous répondre, je vais vous citer un passage. C'est le début de Job. Je vais lire Job 1, 8 à 11. L'Éternel, on connaît bien ce passage, hein, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Ça, ce n'est pas de la critique. C'est plutôt honorifique. Et Satan répondit à l'Éternel. Ouais, non. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? En gros, Job craint Dieu, mais il le fait par calcul. Il fait ça pour mériter quelque chose, hein. Allez, à vous. Ne l'as-tu pas protégé, hein? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ouais, tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Moi, je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça ressemble pas à de la critique. Ça ressemble pas à des phrases que nous sommes habitués, malheureusement, à dire. Hein? Ouais, allez, il est comme ça, mais... Attends, mais au fond, gratte un peu, tu verras. Ouh. Hey, il est pas mieux que les autres, hein. Tu vas voir, moi je te dis. Ça durera pas. Eh bien, mes chers amis, Satan, on sait qu'il est le père du mensonge, mais j'ai envie de dire que Satan est le père de la critique. Satan est le père du jugement facile. Et ces travers-là sont dans la nature humaine. Nous le savons bien. Quelqu'un ici se livre-t-il régulièrement à la critique? Nous reconnaissons-nous dans ce qui précède? Eh bien, si tel est le cas, il convient de se repentir sincèrement. Et moi, je vous avoue que quand j'ai préparé... j'ai commencé à chercher, c'est un grand mot, mais à réfléchir sur ce passage, sur cette phrase de Jacques et de Jean. « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende sur eux et les consume ?» Et plus j'avançais dans la réflexion, et plus je me disais, mais c'est toi. T'es un critiqueur de première. Eh bien, nous devons nous repentir si nous sommes concernés. Parce que, chers amis, si nous voulons juger, il faut être parfait. Nous pouvons juger, mais si nous voulons juger, il faut être parfait. En tout cas, si nous jugeons quelqu'un sur un certain domaine, c'est, d'une certaine manière, c'est proclamer notre perfection dans ce domaine. Jésus peut juger, et il jugera à la fin du temps. Paul dira, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » Car jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Oui, effectivement, l'action de juger engage la personne qui formule le jugement. Parce que, n'étant parfait en rien, nous prenons un risque énorme en jugeant notre voisin, puisqu'en faisant cela, nous nous condamnons nous-mêmes, puisqu'on le fait nous-mêmes. Jésus a souvent repris les pharisiens, mais lui, il le pouvait. Il a même été fort à certains moments. Il a même prononcé à ses disciples des jugements très durs, race de vipères, c'est quand même pas rien. Ça, c'était le premier enseignement, les jugements faciles et la critique. Le deuxième enseignement, c'est la rage de punir. La rage de punir. Alors là, je pense également à une justice humaine à sens unique. C'est vrai, on est beaucoup plus dur avec les autres qu'on ne le serait avec nous-mêmes. N'est-ce pas? Ne mériterions pas, nous aussi, chers amis, que le feu du ciel descende sur nous et nous consume? Posons-nous clairement la question. Allez, dans ma vie, est-ce qu'il y a des choses qui mériteraient que le feu du ciel descende sur moi et me consume? Mais déjà... d'où vient cette histoire de feu du ciel qui consume des gens? Enfin, il faut avoir l'esprit tordu. Ça vient d'où ce concept? Eh bien, Les disciples Jacques et Jean ne l'ont pas inventé. C'est dans l'histoire de la Bible. Souvenez-vous Sodome et Gomorre, comment ils ont été jugés. Genèse 19. Le feu du ciel. C'est un châtiment. Une des plaies d'Égypte, le feu du ciel, châtiment. 102 militaires du roi Akasia qui ont été brûlés. Un roi, un. Encore un châtiment. L'autel qui a été consumé devant les prophètes de Baal. Là, c'était le feu du ciel, c'était une démonstration de force. Une offrande approuvée, le feu du ciel. Job 1,16, on y était. Les brebis de Job, elles ont été éradiquées par le feu du ciel. Là, c'est une épreuve. Les lieutenants de Satan, dans l'Apocalypse, ils sont détruits par le feu du ciel. Encore un châtiment. Jacques et Jean connaissaient ces passages. Pour eux, bien sûr, c'est le châtiment qu'ils appelaient sur les Samaritains. En plus, c'était des ennemis, on les aime pas. On les aime pas. La seule chose qu'ils méritent, c'est que le feu du ciel descende et les consume. Eh bien, sachez, chers amis, et nous le savons, que Dieu, à la fin des temps, jugera aussi les hommes. Et il le jugera par ce moyen, le feu du ciel. Donc c'est pas rien. C'est pas un petit châtiment. Luc 17. Ce qui arriva du temps de Lot, Sodome et Gomorre, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Attention, chers amis, méfions-nous de ne pas être nous-mêmes atteints par le châtiment que nous appelons sur notre voisin. Parce que là aussi, il y a des exemples. Gardons-nous de penser qu'un tel ou une telle mérite ça. Elle a fait ça, elle mérite ça. Elle mérite que ça. De toute façon, c'est dit. Parce que la parole de Dieu nous relate plusieurs situations où les personnes qui ont formulé un jugement sur une personne se sont pris le même jugement sur eux. Comme un retour de flamme. Alors, c'est une expression qui va bien, un retour de flamme pour le feu du ciel. Souvenons-nous d'Aman, à l'époque d'Esther. Aman, et puis sa famille, avaient fomenté tout un scénario, pour parler très français, très gore, pour tuer Mardoché. Un gros bout de bois haut de 25 mètres pour pendre Mardoché. Et bien, c'est lui qui a été pendu à ce bois. Les gouverneurs de Darius, qui avaient imaginé un supplice inimaginable pour Daniel, la fosse au lion, eh bien c'est eux qui ont fini dedans. Shimei, cet homme qui avait insulté David pendant qu'il marchait, critiqué son règne, maudit le roi en 2 Samuel 16, plus tard, beaucoup plus tard, a été mis à mort par Salomon après bien des avertissements. Après avoir entendu ceci, Salomon lui a dit « L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. » Et oui, effectivement, c'est la critique, la méchanceté, le vœu de châtiment qui est retombé sur celui qui l'a prononcé. Donc, méfions-nous, chers amis, de ce que nous disons. Ce n'est pas une règle, je ne suis pas en train de dire que c'est automatique, mais méfions-nous. C'est beaucoup trop grave pour espérer une punition sur l'un ou l'autre, être animé par la rage de punir. Mes amis, c'est un danger majeur qui risque de nous revenir à la figure. Ne dit-on pas l'arroseur arrosé? Si au lieu d'appeler le feu du ciel sur celui qui s'égarait sur la place de parking, chers amis, et si nous prions pour que celui-ci rencontre le Sauveur? Et si, à l'instar du discours de Jacques et de Jean, nous commandions, non pas que le feu du ciel, mais que la pluie du ciel, la pluie revigorante de Jésus, l'espérance, vienne sur notre adversaire. Et si nous appelions que la bénédiction vienne sur eux, ne serait-ce pas mieux? N'oublions jamais lorsque nous formulons un jugement, que sans l'intervention de Jésus sur la croix, le feu du ciel, c'était pour nous. J'en arrive à ma conclusion. On se pose souvent la question WWJD. Vous savez ce que ça veut dire? What would Jesus do? Que ferait Jésus? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Je n'aime pas du tout cette question. Je suis désolé pour ceux qui portent le bracelet. Je n'aime pas cette question parce qu'elle insinue que nous pourrions y répondre. Oui, je n'ai pas la prétention de savoir ce que Jésus aurait fait. Aurais-je pu prévoir ce que Jésus aurait fait lorsqu'on lui a présenté cette femme soi-disant adultère? Non, on ne peut pas savoir ce que Jésus aurait fait, pas réellement. Par contre, on peut savoir avec certitude ce que Jésus a fait. Parce qu'il l'a fait, nous l'a montré en exemple. Et c'est le cas dans ce texte que nous avons lu. Jésus a fait quelque chose, il dit pour lui, je ne veux pas que le feu du ciel descende sur eux, je préfère plutôt que les âmes soient gagnées. Hein ? Sauver des âmes et non les perdre. Ça, c'est ce que Jésus veut. Donc, ce que Jésus ferait à ma place, ce que Jésus a fait à ma place, oui, hâtons, espérons, prions pour que des personnes viennent à lui, au lieu de souhaiter et vouloir absolument que le châtiment tombe sur eux. Parce que nous ne sommes pas meilleurs et nous méritons exactement la même chose qu'eux. Le temps du jugement, qui se fera par le feu, le temps du jugement dernier n'est pas arrivé. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes encore dans le temps de la grâce, le temps de la patience de Dieu envers les hommes. Tant de grâce et tant de patience, pourquoi alors nous qui voulons faire ce que Jésus fait, nous ne ferions pas de même, c'est-à-dire offrir la grâce et la patience à ceux que nous critiquons ou que nous avons envie de voir punis sur la place publique. Je termine par un verset, Jésus encore qui nous dit quelque chose, il nous dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Amen.